Salut à tous et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Salut à tous.
Et aujourd'hui, on reçoit Alexandre Netmad Malch, un entrepreneur français que je trouve particulièrement inspirant de par son parcours. Il a fondé et a été pendant plus de 10 ans le directeur général de Melty Group, le plus grand groupe français de médias en ligne dédié aux jeunes. En 2011, il a été nommé par le président de la République vice-président du Conseil national du numérique chargé des startups et de l'entrepreneuriat. Plus récemment, il a dirigé pendant 3 ans la stratégie numérique mondiale des marques Quicksilver et Roxy. Il est jury à Station F, le plus grand incubateur de startups au monde, parrain de GTech, l'école de développeurs informatiques spécialisée dans les jeux vidéo. Et il vient tout juste de lancer son nouveau projet, Full Life, la première marque à la croisée entre le streetwear, le gaming et l'e-sport. Comment ça va, Alexandre ?
Écoute, très très bien et merci pour l'intro et l'invitation.
Yes, ça fait plaisir. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure en off, on sait que c'est une grosse semaine pour toi et on est très content de te recevoir quelques jours après seulement le lancement de Full Life. D'ailleurs, est-ce que tu peux commencer peut-être par nous pitcher un petit peu Full Life et la vision jeu vidéo qui va avec ?
Écoute, l'idée est très simple, c'est de créer une marque de vêtements qui soit à la croisée entre le streetwear et le gaming. Et qui s'inspire du coup de la culture du 10e art, de la culture de l'e-sport. Et en plus de faire des bons produits, qui sont des produits éco-conçus, fabriqués au Portugal, et de super qualité, qui racontent tous une histoire, on a construit la marque comme un jeu vidéo. Et donc on a créé des personnages virtuels, on a créé un système de capsules, on a créé un lore, on a créé des quêtes, des produits rares, des produits légendaires. Et on a essayé de faire en sorte que tous nos futurs acheteurs qu'on appelle des players aient l'impression, en interagissant avec d'autres marques, de jouer à un jeu vidéo, d'avoir la même expérience que quand t'es en ligne dans Fortnite ou dans Diablo en train d'acheter des objets. Ouais. Sauf qu'en l'occurrence, ces objets, bah, tu les reçois chez toi et tu peux les porter fièrement derrière et c'est cool.
Nice. Et d'ailleurs, quels sont un peu les premiers retours? Je sais pas si tu peux nous le dire.
Bah écoute, super bon. On a eu très très bon retour de la communauté. On a eu très 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 bon retour des streamers ou des joueurs de e-sport qui nous accompagnent depuis pas mal de temps pour construire ce projet. On a réussi à faire à peu près le double des chiffres que l'on s'était donné comme objectif au lancement.
Ah, génial.
Donc pour l'instant, tout est plutôt super bien. Maintenant évidemment, il faut qu'on transforme et puis il faut continuer à démocratiser le projet, mais tout se passe plutôt très bien pour l'instant. On est fatigué, par contre.
Super, j'imagine. Parfait, ben, sans plus attendre, on peut dès maintenant s'intéresser au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Pour le premier jeu, dans l'ordre chronologique, on trouve Civilization, donc le jeu de stratégie au tour par tour sorti en 1991 et développé par Firaxis Games. Est-ce que tu te souviens de ta découverte du jeu et tes premières parties là-dessus ?
Ouais, j'ai commencé sur Civilization 2.
Okay.
Donc ça remonte, hein, qui était un des premiers jeux que j'ai pu faire tourner sur mon ordinateur. Et j'ai toujours tout de suite trouvé ce jeu absolument génial. Et ce qui m'a séduit, c'est évidemment bon, voilà, la complexité stratégique du titre, mais également la profondeur historique. Et je trouvais ça absolument génial de construire sa civilisation, de pouvoir voir ses merveilles. C'était un petit peu un rêve d'entrepreneur à l'époque, tu vois, avant l'heure.
Est-ce que depuis, tu continues à y jouer ou pas?
Ah ouais, je les ai tous poncés. c'est vraiment un jeu que j'attends à chaque fois et je les ai tous adorés. Je serais incapable de te dire d'ailleurs lequel j'ai préféré. Le 3 était vraiment, vraiment cool. Le 4 était tout aussi dingue. Et puis après, bon, depuis qu'ils ont commencé à mettre leur système de tuiles carrées, là, qui sont plus carrés mais qui sont en nid d'abeille à partir du 5, je trouve pareil que ça a complètement changé la donne. Je trouve que c'est une franchise qui est vraiment intéressante parce qu'ils ont réussi à rester fidèles à leur concept d'origine tout en modernisant et tout en faisant évoluer le titre. Et j'avoue mais que j'y ai passé des heures absolument dingues sur ce jeu et sur ces différentes versions. C'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer aussi avec des amis. J'ai la chance d'avoir pas mal de potes qui jouent beaucoup à ce truc-là depuis tout le temps. Hein, et donc on y joue beaucoup. Je fais partie des addicts du fameux One More Turn.
Oui.
Le gros problème de Civilization, c'est que quand tu le lances, tu te dis je vais être raisonnable, je vais jouer 2 heures, 3 heures, et puis tu te réveilles à 6 heures du matin, enfin plutôt tu te rends compte que tu t'es pas endormi à 6 heures du matin, Et en plus, t'as encore envie de jouer parce que tu dis, ouais, mais dans 3 tours, j'ai ce truc-là qui arrive, dans 5 tours, j'ai ce machin qui arrive, dans 10 tours, j'ai ce machin qui arrive. C'est quand même super addictif, ce truc.
Le fameux chant des oiseaux qui te fait te rendre compte qu'il commence à être un peu tôt le matin.
Ouais, 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 c'est terrible. Alors, depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai la chance d'avoir un petit qui s'appelle Nathanaël. Du coup, j'essaye de plus me faire avoir par ce genre de tunnel parce que, pour le coup, le petit, le lendemain, quand il te saute sur ton lit à 8h30, si tu veux, lui, il s'en moque que t'aies passé la nuit dans Civilization, hein, ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est que tu sois frais et dispo pour jouer avec lui. Mais clairement, je garde ce jeu des souvenirs excellents. Et d'ailleurs, il y a un nouveau jeu qui va sortir dans pas longtemps. Mais vraiment dans pas longtemps, d'ailleurs, parce qu'on est en avril, qui s'appelle Humankind. Et qui serait une sorte de Civilization killer. J'ai joué un petit peu à la bêta.
Développé par qui?
Alors, je suis désolé, je connais pas le nom du studio.
Okay.
Mais j'ai trouvé vraiment les concepts derrière le jeu assez intéressants et peut-être que ça peut être effectivement un renouveau intéressant pour la franchise parce que j'ai vraiment eu l'impression de retrouver la spécificité d'un Civilization avec 2-3 concepts un peu plus modernes. C'est très intéressant. Mmh. Je peux vous dire par qui c'est fait parce que j'ai le jeu sous les yeux. Publié par Sega et c'est Amplitude Studio qui sort ça.
Ok. Bah, c'est drôle parce que je me souviens que j'avais un pote il y a 2 ans. Qui m'avait dit, ouais, je vais pitcher un jeu de Sega qui remplacerait Civilization. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit? Enfin, Civilization. Lui, en fait, j'ai dû lui expliquer Civilization. J'ai dit de A à Z. Puis, il m'a fait, bah, merci, ça va me servir. C'était un truc dans la pub. Donc, il m'a juste dit que c'était potentiellement concurrent ça. Et il devait aller pitcher ça au Japon. C'était drôle. Et puis c'était Sega. Et donc, c'est marrant que je le retrouve là parce que je m'étais dit, c'est marrant, j'en ai jamais entendu parler. Au final, je suis même pas sûr qu'il soit sorti le jeu. Mais il va sortir.
Bah, il sort. Il a été décalé visiblement d'ailleurs. En fait, il va sortir le 17 août.
17 août.
J'ai hâte.
Ouais. Ouais, vu comme lui me l'avait vendu de leur côté, je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire, ces gars. Donc, à voir ce que ça donne.
Bah, la seule chose que je trouve dommage dans Civilization et surtout dans les derniers, c'est qu'au final, t'es presque tout le temps obligé de finir par faire la même chose. D'une certaine manière, si tu veux développer correctement ta civilisation, tu t'es obligé de balancer, si tu veux, la partie scientifique avec la partie militaire, avec la partie commerce. Alors tu peux plus ou moins te spécialiser, mais tu peux pas juste dire je vais faire du militaire. Tu peux dire... Et donc finalement, tôt ou tard, t'es obligé de reconstruire la civilisation à peu près comme elle a été construite. Donc tu peux feinter un peu, c'est-à-dire que tu peux par exemple avoir, je sais pas, tu peux avoir une tour Eiffel avant d'avoir je sais pas trop quoi, mais globalement, à une trentaine d'années près, tu peux pas faire quelque chose de fondamentalement différent. Ce qui me ferait marrer, et alors c'était un petit peu la promesse du Mankind, on verra si ça marche, ce qui me ferait marrer, ce serait un jeu un peu de ce style-là, mais où tu pourrais vraiment choisir de construire quelque chose de complètement différent, et pas en fait réécrire l'histoire, mais quasi de la même manière. Au final, dans Civilization, tu réécris l'histoire. La seule chose qui change, c'est quelle civilisation découvre en fait le premier la technologie. Quelle civilisation découvre en premier la merveille, mais globalement l'histoire est écrite et elle se termine à peu près toujours de la même manière, dans le même ordre. Ouais. Ce qui me ferait marrer, ce serait de pouvoir faire un truc, mais vraiment très bizarre, où tu construirais une civilisation, mais qui a rien à voir en fait avec ce qu'on connaît aujourd'hui, et qui pourrait être, complètement space, où les mecs auraient des avions avant d'avoir des voitures, par exemple, si tu veux, où on pourrait n'avoir aucune force militaire, mais une technologie extraordinaire qui leur permettrait de pas être agressés ou autre, tu vois, ce serait amusant.
De pouvoir all-in en fait les arbres plutôt que de devoir à chaque fois faire un mix de
ou faire un truc vraiment ou faire un truc qui change vraiment du système qu'on a aujourd'hui. Tu vois, par exemple, je reprends Civilization, mais c'est par exemple très difficile dans Civilization de te dire je vais gagner une partie avec la monarchie. Tu commences, si tu veux, par des systèmes de gouvernement tribaux. Mm-hmm. Et puis petit à petit tu mets en place les gouvernements simples, et puis petit à petit tu finis par devoir mettre en place des gouvernements complexes. Et t'as pas vraiment le choix, tu peux pas te dire ok non mais moi en fait typiquement je veux rester, si tu veux, un peuple tribal, ça me fait kiffer, parce que ouais, tu vas te faire rouler dessus quoi. et ce serait marrant de pouvoir explorer l'histoire mais sans forcément répéter ce qui s'est passé. Ce serait drôle.
Pour le coup, moi j'ai pas beaucoup joué, donc je vois le jeu, enfin j'ai regardé des gameplays etc, donc je vois exactement ce que c'est, mais qu'est-ce qui fait qu'une partie va être plus intéressante qu'une autre pour toi?
Ce qui me fait marrer, c'est souvent. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien jouer avec mes amis. Mais ce qui me fait marrer, c'est souvent ce qu'on se raconte de la partie.
Ok.
C'est-à-dire ce qui est presque plus drôle que le jeu, c'est de te faire ton trip à côté de la partie. et de pas simplement jouer pour gagner, mais plus de dire voilà, là, je joue et je fais genre, je suis une vraie civilisation, et donc tu vois, un peu en mode jeu de rôle, mais tu prends mal parce que t'as eu une armée d'un autre qui est passée à côté d'une de tes montagnes, et puis tu considères que cette montagne, bah, c'était à toi. Alors, pour des raisons idéologiques, tu vas les attaquer, mais juste pour le fun, tu vois. Et puis tu fais des alliances, des machins, des trucs, et tu construis ton petit délire. Et moi, ce qui me fait marrer aussi, c'est de faire des trucs assez jolis. Donc, alors souvent, je perds mes parties parce que j'essaye de faire des merveilles ou j'essaye de faire des vides qui sont jolis. Et ce qui est généralement pas forcément très efficace, mais ce qui me fait marrer, c'est d'avoir, tu vois, les merveilles qui sont bien placées avec les villes bien jolies et tout. Puis je me dis, là, j'aimerais bien avoir cette civilisation, elle a l'air sympa.
Il y a un vrai aspect roleplay, quoi. Ouais, moi, quand je joue avec des potes, on finit toujours par se taper dessus. Et dernièrement, j'ai réussi à mettre mes deux frères à jouer là, à Noël dernier. Enfin, j'en ai un d'eux qui joue à peu près, et l'autre, j'ai juste acheté, je lui ai dit lance-le, et puis on a fait une partie à trois. Puis c'était une catastrophe, quoi. On a fait que se taper dessus. On joue en équipe. Mon grand frère, à un moment, il m'a dit, pourquoi t'as pris ma cité-état? J'étais genre, quoi? Et donc, c'était une guerre. Il voulait plus jouer avec nous. Enfin, on s'est gueulé dessus. Moi, ça a réveillé mon père qui est venu nous dire.
J'ai perdu des potes. Hein.
Ah, c'est...
J'ai perdu des potes avec ça. Je me suis pris la tête avec mon meilleur ami. Parce qu'on a fait une partie, on était trois. Et je gagnais la partie, mais largement, avec une victoire religieuse qui, au passage, est quand même la victoire la plus chiante du jeu. Hein, on va pas se mentir, c'est vraiment trop chiant à faire.
C'est de la micro-gestion, ouais.
Et je sais plus, mais on devait partir manger au resto, je sais pas trop quoi. Ça remonte à il y a un an. Hein. Et du coup, on se dit, on arrête. Et en fait, globalement, j'avais gagné à un tour près. Et donc on se dit, on arrête. Puis on commence à partir sur le chemin du restaurant. On discute. Puis moi, je leur fais, écoutez, les gars, on considère que j'ai gagné. Mais j'aimerais bien qu'on continue quand même la partie. Parce que j'aimerais bien avoir le petit achievement, tu vois. Parce que la victoire religieuse, elle est chiante à faire. Ouais. Puis on continue à discuter, puis je sais plus pourquoi, mais à un moment je dis à son frère qu'en fait il y avait une seule manière de m'empêcher de gagner, c'était d'utiliser en fait la religion d'un des peuples que j'avais pas encore complètement asservi, si tu veux, pour pouvoir justement se faire convertir, et pour que lui puisse ensuite utiliser justement tous les missionnaires qu'il avait pour pouvoir convertir le reste et m'empêcher en fait de gagner ma victoire religieuse. Et donc évidemment on rentre du resto. Et évidemment, le frère de mon meilleur pote, il a filé mon truc, et donc il l'a mis en pratique et j'ai perdu.
Ah, terrible.
Ah non. Vraiment, j'étais vraiment, mais vraiment dégoûté. J'aurais mieux fait de me taire, mais tu vois, je m'étais dit, comme quoi la diplomatie, même entre amis, si tu veux, il faut, jusqu'au dernier moment, il faut garder le poker face.
Ah, terrible. Et puis, il y a beaucoup quand même qui se jouent en early, mine de rien. Tu sais, genre, le début de la partie, je joue pour beaucoup.
Ouais,
puis une des parties avec mon frère, tour, genre, je sais pas, tour 20, mon petit frère, il a attaqué mon grand frère. All-in. Les deux ont commencé à se battre. Puis en fait, j'aurais dit, on peut continuer, mais vous avez perdu, quoi. Enfin, ça n'arrivera jamais. Ouais. Vous n'arriverez jamais à remonter parce que les deux se faisaient la guerre. Genre.
C'est un de mes potes qui utilise cette technique que je trouve épouvantable, qui est, si dans les, tout au début, tu construis ta civilisation, et dès que t'as une ou deux villes un peu établies, tu prends toutes tes armées et tu vas rooster ton voisin. Et normalement, si ça passe, t'as gagné.
Ouais, c'est un all-in, c'est ça.
Yes, voilà. Si ça passe de tout ça, si ça passe pas, t'es effectivement complètement dans la merde, mais si ça se passe, tu sais, après 30 minutes de jeu que t'as gagné, même si le jeu va en durer 15 ou 20 heures, mais normalement le fait de gober l'utilisation te permet d'avoir tellement d'avance que, à moins vraiment de faire n'importe quoi, t'es bien parti.
Ouais. Je pense que la licence est vraiment démocratisée sur le 5, parce qu'il y avait un moment une offre, genre, il était à la limite d'être gratuit. Sachant que le 6 a été gratuit là sur l'Epic Games Store, mais le 5, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où avec tous mes potes on a acheté ça, puis on était à 20 à jouer, enfin c'était vraiment des parties cool. Et il y avait un petit truc moi que je connaissais pas, mais tu peux aller voler un bâtisseur à une cité-état, tu lui voles, puis après tu fais la paix directement, et du coup t'avais ton bâtisseur tranquillement tour 5, quoi.
Pas mal, effectivement, je connaissais pas cette technique.
C'était sur le 5, ouais, sur le 5. Et quand ils ont commencé à tous faire ça, moi, j'étais perdu. J'étais, putain, vous allez trop vite.
D'ailleurs, je crois, dans le 6, ça ne marche plus. Si tu voles un bâtisseur, il se transforme en ouvrier, je crois.
Ah, tu veux dire un colon, il se transforme en ouvrier?
Ouais, si tu voles un colon, il se transforme en ouvrier.
Ouais, c'est possible sur le cité-état, ouais.
Et tu mentionnais tout à l'heure que parfois tu faisais juste peut-être des belles civilisations. Est-ce que c'est peut-être un peu lié à ta déformation professionnelle, le fait que tu as beaucoup joué à SimCity aussi, apparemment?
Ouais, c'est parti du truc, quoi. Moi, j'aime bien faire des trucs jolis, alors j'ai beaucoup joué à des jeux de
gestion.
J'ai joué à SimCity, j'ai joué à CityXL aussi, qui est très sympa.
Mmh, ouais.
Civilization, évidemment, j'ai beaucoup joué à Planet Coaster, et j'y ai passé des heures aussi. C'est pareil, c'est un de mes jeux préférés. J'ai construit des parcs d'attractions géants là-dedans.
Yes, faut qu'on en parle d'ailleurs. J'ai une anecdote hyper intéressante là-dessus et j'aimerais savoir si c'est vrai. Bon, on peut peut-être m'en parler dès maintenant d'ailleurs. Donc, ouais, parlons de Planet Coaster, le jeu de simulation et de gestion de parcs à thème sorti en 2016 et développé par Frontier Development. C'est donc le successeur des Roller Coaster Tycoon et la série de jeux a été développée par le même studio. Avant de parler de ton expérience sur ce jeu, je dois te poser une question. J'ai lu dans ton livre un truc qui m'a fasciné et il faut qu'on en parle. Apparemment, tu as eu pendant plus de 10 ans la même partie sur Roller Coaster Tycoon. Est-ce que tu me confirmes?
Ouais, c'est sur le RCT3 là.
Okay.
Et oui, j'ai construit un parc là-dessus. Je me suis vraiment amusé.
Putain, c'est fou.
Et à la fin, heureusement, Planet Coaster est sorti parce que j'étais vraiment allé au bout du truc. C'était compliqué, mais j'ai fait la même sur Planet Coaster.
D'accord.
Et donc ça fait depuis 2016, depuis le lancement, que je suis également sur deux parcs d'attractions dans Planet Coaster. Et qui forment un tout en fait, parce que les parcs sont censés se virtuellement se lier, hein, si tu veux. Et donc c'est en fait Time World Resort, dans lequel tu as Time World Adventure et Time World Studio.
J'ai lu ça, ouais. C'est...
Et donc la partie Adventure est un parc à thème avec 8 ou 9 lands. Il y a un land Star Wars, un land Jurassic World, un land Harry Potter, un land sur l'Egypte, un land sur le thème de la jungle, un land sur le thème de la piraterie, un land sur le thème du western et un land sur le thème de la Chine. Et donc c'est assez marrant comme parc, je me suis éclaté à le faire, hein. Il est vraiment cool. Pour donner une idée, sur mon PC qui est vraiment une machine de guerre, je pense que ça met mais littéralement 15 minutes à charger.
Wow.
Avant de pouvoir lancer la partie. Ce qui est une de mes plus grandes frustrations, c'est que chaque année, je rajoute des composants dans mon ordi ou change de processeur, de carte graphique pour essayer de faire tourner ce jeu. Et chaque année, je me retrouve peinement à afficher mes 13 ou 15 FPS parce que les amis qui ont développé ce truc-là l'ont développé sur une ancienne version de DirectX.
Okay.
Et en fait, donc chaque personnage est géré différemment, si tu veux. Ce qui fait que passer un certain nombre de visiteurs, quel que soit la puissance de ta machine, t'as un goulot d'étranglement dans la librairie DirectX qui fait qu'en fait ton truc ne peut pas aller plus vite. Et donc la seule solution pour m'en sortir, c'est de trouver des processeurs plus puissants mais avec moins de cœur. En gros, plus t'as de cœur, moins ce jeu fonctionne, puisqu'en fait comme encore une fois il utilise une vieille librairie DirectX et que ça n'a pas été mis à jour, et bien en fait il te faut peu de processeurs mais très puissants plutôt que plein de processeurs pas puissants. Et j'ai lancé du coup Time World Studio il y a 2 ans, donc je me suis amusé à le faire aussi, qui est, comme son nom l'indique, dédié au film. Et c'est assez marrant. Récemment, j'ai construit Time World Village, qui est la liaison entre les deux parcs. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que j'y joue avec mon petit, là, qui découvre pas mal le monde du gaming avec Planet Coaster. Et c'est un super outil quand t'as un petit enfant, parce que du coup, tu peux jouer avec lui sur les couleurs, tu peux lui montrer les différentes plantes, tu peux lui montrer les différents animaux, etc. Enfin, donc c'est très drôle comme outil de bac à sable, si tu veux, pour construire des choses avec un petit et teaser son imagination et lui apprendre des trucs.
Carrément.
Donc c'est vrai. Et ils ont sorti Planet Zoo, pour tout savoir, ils ont sorti Planet Zoo. Donc je sais pas si jamais il y a quelqu'un de Frontières qui regarde ce podcast, vous pourrez les taguer. Mais les amis, s'il vous plaît, est-ce que c'est... Et ils ont sorti Planet Coaster sur console.
Ouais, sur console, il y a pas longtemps.
Du coup, maintenant, la question c'est, est-ce que c'est possible d'utiliser la technologie que vous avez mis dans Planet Zoo, qui au passage est quasi la même que celle de Planet Coaster, ou d'utiliser les optimisations que vous avez mis en place pour la version next-gen qui est sortie il y a quelques mois, ouais, pour nous faire un petit patch sympathique sur PC et me permettre d'avoir plus de FPS. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de Planet Coaster sur PC. Je suis sûr qu'ils seraient ravis de payer des DLC, des mises à jour, des add-ons. Mais s'il vous plaît, les amis de Planet Coaster, aidez-nous. Voilà. C'est un message.
Send help.
Et pour le coup, à l'époque, quand il parlait de t'avoir vu jouer à Roller Coaster Tycoon, il disait, William, donc le co-auteur de ton livre, qu'on pouvait te comprendre en voyant le parc. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là et comment tu pourrais l'interpréter, toi, aujourd'hui?
Je Je pense que c'est lié à l'idée de... J'ai toujours voulu dans mes projets créer des univers et faire en sorte que les détails soient cool.
Okay.
Donc c'est ce qu'on avait fait avec Melty et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Full Life. Si vous vous baladez sur le shop de Full Life et si vous commencez à creuser un peu dans ce que l'on a construit, vous verrez qu'en fait il y a tout un univers d'ailleurs qu'on appelle le Full Life Universe, mm-hmm. avec une histoire, avec un lore, avec des backgrounds, avec des personnages. Et on n'a rien laissé au hasard. Quand vous commandez vos produits sur le site, vous recevez des capsules chez vous qui sont les mêmes capsules que celles que vous ouvrez dans la vie virtuelle. Le site est bourré de références au gaming, d'easter eggs, jusqu'aux produits eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les produits Full Life ont des easter eggs. Quand tu retournes en fait nos hoodies,
oui.
tu peux voir en fonction du thème de ton hoodie qu'il y a des références au gaming, que chacun est lié à cette culture du 10e art qui est patiente. Donc je pense que c'est ce qu'il voulait dire, William. C'était que quand tu regardais l'attention que j'avais mise dans les détails dans le parc, tu retrouvais finalement la même attention dans les détails que ce qu'on avait fait quand on avait par exemple fait les Melty Future Awards ou le Melty Sport Club, et que ce que tu peux retrouver maintenant quand tu prends Full Life. Et c'est ça qui est passionnant. Moi, ce qui m'intéresse plus que tout, c'est créer ces histoires, créer ces univers. La narration autour, raconter de belles choses, et tout ça passe par les détails. Et ce qui me passionne, c'est justement les marques qui sont capables d'arriver à construire ces détails, à construire ces expériences qui dépassent, si tu veux, qui dépassent le wow effect, en fait, qui vont plus loin que ça. Et Disney est évidemment une référence pour moi. Je trouve que c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont fait.
Oui.
Et Disney, ils ont une expression qui s'appelle bumping the lamp, déplacer la lampe, en fait. Puisque dans un film, il faut sauver la peau de Roger Rabbit, ils ont choisi, dans une scène où une lampe, en fait, se déplace, parce que le lapin se cogne la tête sur la lampe, de faire bouger toutes les ombres de la scène. Ce qui, à l'époque, évidemment, ils n'avaient pas de moteur de rendu comme ceux que l'on utilise aujourd'hui, était un travail absolument titanesque, et que finalement, peu de personnes...
s'en rendaient compte, je pense.
Voilà, s'en rendaient compte. Et c'est ce qui fait en fait finalement la force de ces trucs-là, c'est que les détails sont absolument extraordinaires. Je suis très fan d'un jeu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Star Citizen. Et je suis très fan de ce truc pour leurs détails. Je sais pas si le jeu sera jouable un jour, enfin dans le sens si on prendra du plaisir à jouer, je sais pas s'il sortira un jour, mais je sais aujourd'hui que l'attention dans les détails de ce truc est délirant. La manière dont ils construisent les vaisseaux, de la manière dont ils marketent les vaisseaux, la manière dont ils les vendent, la richesse de l'univers, alors que ce truc n'est même pas encore réellement jouable et fun, hein, si tu veux, et absolument délirant. Je suis ce projet depuis des années pour ça, à la fois parce qu'il y a une vraie prouesse technique derrière, et à la fois parce que l'univers et les détails sont absolument délirants. Et tellement délirants, d'ailleurs, que tu finis par te demander si ça sortira un jour, mais c'est je trouve exceptionnel.
Ouais, Star Citizen, c'est... Ça fait quand même assez longtemps que c'est, on va dire, je sais même pas si on peut appeler ça une bêta, c'est un bribe de quelque chose. Mais...
Ouais, je sais plus où on en est. Ouais. Ça devient jouable, hein, mais.
Tout le truc des vaisseaux, et puis même en fait, on est sur des prix qui sont aussi délirants, en fait.
C'est du délire total. Ouais. Mais ça marche. Hein. Moi, je me suis fait avoir dans ce truc. Enfin, si je me suis fait avoir ou pas, mais j'ai mis beaucoup d'argent dedans.
Ouais. Il y en a que... d'avoir.
Parce que c'est du délire, parce que c'est extraordinairement bien fait, parce que c'est ultra bien marketé, parce que c'est dingue. Et c'est vrai que quand tu fais décoller tes vaisseaux, tes machins, tes trucs, tu te dis c'est dingue. Quand tu visites les détails de tes vaisseaux, tu te dis c'est dingue. Les graphismes sont dingues. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce soit fun. À terme, c'est le truc qui m'inquiète. C'est ils sont tellement misés sur le réalisme que je sais pas si ça va être fun. C'est clairement, avant de pouvoir faire décoller ton vaisseau, entre le moment où tu lances le jeu et le moment où tu es dans l'espace, il faut 15 minutes en temps réel. Et dans ces 15 minutes, tu as pris 3 fois le métro, 5 fois un ascenseur, et tu t'es balé dans 50 couloirs.
Ouais.
Et je suis pas sûr. Autant c'est extraordinairement réaliste, autant je suis pas sûr qu'en tant que joueur, j'ai pas juste envie de faire je lance, je prends mon vaisseau, je décolle. Ouais. Tu vois, beaucoup moins réaliste, mais peut-être
plus fun.
À voir.
Ouais. Après, leur but, c'est... J'imagine, c'est que les gens soient à plusieurs sur un vaisseau et que finalement ça prenne un peu moins de temps et ils décollent en deux-deux comme. Mais c'est vrai que Moi, je me rappelle, j'avais joué avec un pote, j'avais pas de vaisseau, du coup, il m'avait dit, bah, viens, moi, j'en ai 8. Enfin, le mec, au lieu d'avoir des garages avec des Porsche, il avait un garage avec tous ses vaisseaux.
Ce qu'ils ont appris,
hein, Chris, je sais pas si tu connais Star Citizen, mais un vaisseau, ça coûte, moi, il me parlait de 1500 euros. Alors, je sais pas où ça en est maintenant, mais.
Ça dépend lesquels. Voilà. T'as les chasseurs classiques, entre guillemets, sont à entre 30 et 50. Ouais. Et après, ouais, t'as des. Je pense que les gros, gros trucs, style les javelins ou les machins, qui sont des espèces de vaisseaux, vaisseaux capitaux. Je sais pas s'il faut faire l'accord, mais c'est pas grave. En gros, des Star Destroyers, hein, voilà.
Ouais.
Ça peut. Je crois que le plus cher va monter jusqu'à 10 000. T'as des packs qui font fortune. C'est fou.
Et ce jeu, ça reste toujours le plus financé, le record du plus financé au monde.
380 millions.
Ouais, c'est ça. Putain.
Mais je pense que ce jeu, ça va être. C'est quitte ou double. Soit ça va être un des plus grands échecs de l'industrie vidéoludique. Ouais. Et toute cette thune, si tu veux, aura servi à rien. Bon, à part payer évidemment les studios, les fondateurs, ce qui est très très bien aussi, mais. Mais en tout cas, le projet sera décevant. Soit ça peut être vraiment déliant. Ouais. Les mecs qui vont vraiment réussir à créer un univers virtuel total.
C'est ça.
Et ça va être du délire.
C'est là où ça peut être hyper intéressant dans le fait que ce soit hyper réaliste, c'est que s'ils transforment ça en VR, mais tu sais, avec un vrai mouvement, les gens peuvent marcher dans le vaisseau comme si c'était un vaisseau, etc. Enfin,
bah, c'est le but. S'il y a bien un projet qui est capable de faire ça, c'est eux. Ils vont super, 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 super loin. Donc, à voir.
Mais c'est vrai que ça, c'est un projet où on a envie de savoir ce qui va se passer, mais ça fait quand même. Là, ça commence à faire un bon 10 ans. On arrive aux 10 ans, je pense. Ça commence pas longtemps.
Disons que la communauté commence à s'impatienter, sérieusement.
Ouais.
Après, il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent, qui supportent le projet. Donc, mais oui, je pense qu'il commence à y avoir un peu d'impatience de la part des fans.
Pour revenir un peu là, juste sur Planet Coaster. Je sais que t'es très inspiré et fan de Walt Disney. Est-ce que quelque part dans ton parc, on retrouve le Epcot, un peu l'Experimental Prototype Community of Tomorrow, avec vraiment une vision futuriste et hyper moderne dans l'architecture et même la construction du lieu ou pas?
Alors, l'entrée du parc est justement inspirée d'Epcot.
Ok.
Avec justement toute cette logique et notamment tout le travail sur les flux de population et les trams, les bus, etc., qui permettent de faire en sorte que tu arrives à avoir beaucoup de visiteurs sans que ce soit long pour les gens. Et au milieu d'un des deux parcs, il y a un lac énorme, si tu veux, et donc du coup, sur le lac, tu as des feux d'artifice qui est justement des feux d'artifice qui ressemblent à celui d'Epcot. Après, je me suis beaucoup inspiré évidemment des trucs de Disney. Hein, dans mon studio, j'ai une sorte de tour de la terreur et j'ai l'attraction Nemo que je trouve bien, que j'ai essayé de remettre en place. Dans Time World Adventure, si tu veux, j'ai pas mal avancé sur la partie Star Wars qui appartient à Disney maintenant aussi. Alors, pas du tout le land qu'ils ont finalement fait, mais moi je suis plutôt parti dans l'idée de faire la forêt d'Andorre. Je trouvais ça assez marrant, donc c'est plutôt comme ça que je l'ai joué pour mon land Star Wars. Mais ouais, je me suis inspiré évidemment de ce que fait Disney, je trouve que c'est une boîte assez formidable.
Dernièrement, j'ai regardé une vidéo sur ça, c'était l'histoire de Pixar.
Ouais.
Et franchement, la vidéo était trop trop bien. C'était de Sofiane, je pense, un youtubeur. Et la vidéo était trop trop bien. Et en fait, tu te rends compte que Pixar, ils ont été rachetés, mais finalement, ils ont un peu patché leur ADN sur Disney. C'est comme pour créer un espèce d'hybride amélioré de Disney. Je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point ces compagnies, c'est une fusion particulière, je pense. C'est un achat particulier parce que c'est pas vraiment une fusion, mais
ouais, qui s'est fait au bon moment puisque c'était le moment où les films d'animation de Disney commençaient justement à tirer un peu la langue.
Ouais.
Là où les crossovers que Disney faisait avec Pixar fonctionnaient bien, et donc c'était smart, c'était vraiment smart. De manière générale, les acquisitions de Disney ont été brillantes, et ça les met aujourd'hui dans une position avec Disney Plus qui est bonne, qui est vraiment très très bonne.
Ouais. Et même en termes de jeux vidéo, enfin, je vois comment ils relancent un peu quand même Star Wars, qui s'était un peu endormi, on va dire. C'est vrai que George Lucas, moi, depuis tout petit, j'adore Star Wars. Vraiment, genre, c'est sûrement un de mes univers préférés. Et je me suis toujours dit qu'il était un peu resté dans sa suffisance, sans prendre trop de risques. Mais en même temps, on peut pas nécessairement lui en vouloir parce que c'est lui, il avait créé quand même un empire avec finalement pas grand chose.
Ouais, et puis il avait aussi la pression des fans, c'est-à-dire que dès qu'il sortait un petit peu des sentiers battus, il se faisait éclater la gueule. C'est des licences qui sont complexes. Parce qu'à à la fois les fans veulent des trucs neufs, mais à la fois ils veulent aussi que tu restes dans ce qui a déjà été fait. Ils veulent à la fois du Star Wars et pas du Star Wars. Star Wars, c'est un cas d'école, c'est extraordinairement compliqué. Ouais. Tu vois, tu prends le Star Wars 1, les fans l'ont rejeté alors pour le coup c'est original. Tu prends Star Wars 7, qui était donc une copie évidente hein, du 4. Et qui pour le coup était vraiment du bon Star Wars en mode Star Wars avec du Star Wars. Les fans l'ont rejeté parce que pour le coup bah, c'était trop la même chose. C'est compliqué. Tu prends le 8, je suis pas fan du tout parce qu'effectivement je trouve que c'est nul dans un univers comme celui-là quand les réalisateurs sont une espèce de guéguerre et que le mec qui déconstruit tout ce que le premier a construit. Enfin,
c'est vraiment
un loupé. Je comprends pas que Disney ait laissé passer ce truc-là. Je pense que les mecs ils se sont fait entuber complet là-dessus, mais je trouve ça dingue que les mecs. Dans une licence comme celle-là, construisent une narration, et puis le film d'après la déconstruisent, pour finalement ressortir un film qui repart sur la narration du film de l'autre film. Ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est quand même marrant, parce que tu peux enlever Star Wars 8,
tu peux
regarder le 7 et le 9 quasiment de suite, ça fonctionne.
Ouais.
Donc ça, je trouve que c'est quand même un vrai échec.
Et les deux qui ont été faits, du coup, par J.J. Abrams, quoi.
Bah ouais. Ouais, je sais pas ce qui lui est arrivé à l'autre là, de partir en
vrai. Je pense que c'est surtout sur. En fait, J.J. Abrams, la façon dont il fait quasiment tout, genre les séries, les films, et ça, moi j'adore ça personnellement, mais il laisse toujours plein de mystères pour que les gens fassent du theorycraft. Enfin, tu sais, genre sur Internet, tout le monde commence à en parler, etc. Et en fait, c'est vrai que tous les petits trucs qu'il avait mis en place, ça s'est fait shut down, mais un peu de
manière
super nulle.
Ah ouais,
mais super nulle. Ouais, ah, c'était genre. Bah, Ray, en fait, c'est l'enfant de personne.
Voilà. Bam.
Voilà. Et l'autre là, le méchant qui s'appelait
On le bute comme une merde.
Ouais, c'était lui. Oh, il est mystérieux. Comment il a existé avec tout ce qui s'est passé avant? Il meurt. On sait pas qui c'est.
Et surtout, t'as des storylines qui sont mais complètement what the fuck et qui servent à rien. C'est-à-dire que surtout d'habitude dans un film Star Wars, tu vois, t'as 2 heures pour raconter un truc. Tout sert à quelque chose plus ou moins.
Ouais,
et là en fait les mecs ils partent faire une quête qui en fait n'aboutit pas, tu vas voir toute l'histoire dans le casino et tout, en fait tu pourrais l'enlever complètement, ça reviendrait
complètement ouais, tout ce là,
enfin, c'est juste dire, et sans parler du fait que le film est honnêtement complètement con du début jusqu'à la fin
avec le vaisseau qui va super lentement là.
Et ouais, on prend un vaisseau Star Wars qui a du carburant, ok, alors pourquoi pas, première nouvelle, mais pourquoi pas, très bien, le truc il est poursuivi par une flotte qui visiblement a aussi du carburant, mais beaucoup de carburant cette fois-ci. Il n'y a pas un seul mec de la flotte, alors que le truc fait un tout droit vers une planète, qui se dit, je vais passer en vitesse lumière pour les attendre de l'autre côté.
Ouais.
C'est juste du délire, quoi. T'es à la tête de l'Empire Galactique, t'es en train de poursuivre la flotte rebelle, il y a bien un moment où t'es pas con, et tu dis, bah, ok, ils peuvent pas, que les rebelles peuvent pas passer en vitesse lumière, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est marqué nulle part que toi tu peux pas, quoi. Normalement, l'intrigue, elle prend 30 secondes. C'est, tu balances tes vaisseaux de l'autre côté, t'attends que le vaisseau rebelle arrive, tu te pètes en deux, terminé. Voilà, simple. Enfin, c'était, il y avait pas à tortiller, quoi.
C'est vrai que c'est fait. Moi, je l'ai regardé plus, tu sais, il est beau, tu vois. Le film, il est beau. Il y a rien à dire là-dessus, tu vois. Et donc, moi, j'étais là en mode, bon, bah, au moins, il est beau. Et en fait, moi, avec Star Wars, je prends toujours ça en me disant, même si c'est mauvais, ça rajoute du fond à l'histoire, quoi.
Ouais, sur le principe, je suis d'accord, mais là le mec a fait l'opposé, c'est-à-dire qu'en fait, il a plutôt cherché à enlever du fond qu'à rajouter. Et c'est pareil,
ouais, c'est
la mort de Leia est complètement absurde.
Allez,
pourquoi la faire mourir pour la faire revenir à ce moment-là? Bah, tu vois, c'était complètement débile aussi. Soit tu la faisais pas mourir du tout, et au moins c'était crédible, soit tu disais, bon bah ok, l'actrice est morte donc on fait mourir le personnage, mais le fait de la faire sortir du vaisseau pour la faire revenir derrière en mode mais complètement freestyle.
Ah oui, parce qu'elle revient avec la force, c'est incroyable. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il a mis des nouvelles choses dans Star Wars qui étaient genre improbables, genre trop what the fuck, ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est pour ça que le 8, c'est là où je l'en veux, c'est ouais, il détruit des histoires. C'est ça ce que j'ai pas aimé, c'est.
Et qui apporte rien. C'est-à-dire que Léa, elle part, elle revient, ça ne change rien. À la limite, il y aurait un truc, tu vois. À la limite, le truc serait what the fuck, mais ça changerait quelque chose, ou je sais pas trop quoi, pourquoi pas, mais. Mm. En fait, ça ne sert juste à rien.
Ah, c'est vrai.
Trop bizarre.
Mais bon, c'était leur reboot, et puis derrière, bon, Mandalorian, quand même, il.
Frosse claque.
Tabasse.
Ouais, c'est une bonne série, et je pense que la série sur Obi-Wan va être, à mon avis, genre très, 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 très bonne.
J'espère.
À voir.
Balle dans leur camp.
Mais. Ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est. Tu sais, genre, c'est un peu bête quand même de payer un des meilleurs scénaristes au monde, J.J. Abrams, un réalisateur, pour derrière mettre, enfin, un semi-inconnu, hein. Je veux pas dénigrer son travail, mais quand tu mets J.J. Abrams, puis derrière, tu mets lui, tu dis, bah, c'est un peu bizarre.
En tout cas, il a tout saccagé, donc.
Ouais. Et ça veut aussi dire qu'à mon avis, J.J. Abrams avait pas un œil dessus.
Non, mais je crois qu'il y avait un souci à l'époque, et que J.J. Abrams avait dit, ouais, moi, je veux plus travailler avec Disney, une connerie comme ça. Parce que je pense qu'il l'avait trop emmerdé sur le film d'avant. Et c'est dommage. Enfin bon. Voilà.
Grosse parenthèse avance.
Ouais. Mais c'est dommage quand même.
On peut enchaîner et parler de ton troisième et dernier jeu, qui était EverQuest 2. Donc le MMORPG sorti en 2004 et développé par Sony Online Entertainment. Est-ce que tu te souviens comment tu y arrives et est-ce que tu as des souvenirs autour de ça?
Alors, là maintenant, c'est la partie du podcast qui va être complexe. Vous allez pouvoir me censurer. Parce que j'ai des messages à faire passer. Je suis quand même pas une partie de l'industrie ado, mais j'ai des messages à faire passer. Donc, j'ai commencé l'MMORPG, pardon, avec la quatrième prophétie.
Okay.
C'est une époque que vous ne connaissez peut-être pas. D'ailleurs, je sais pas quel âge vous avez, mais c'était l'époque d'un truc qui s'appelait Wanadu. Et d'une plateforme qui s'appelait Goa. Et Goa, c'était extraordinaire, c'est ce qui m'a permis de découvrir le jeu en ligne à l'époque. Alors Goa, pour les plus jeunes qui écoutent ce podcast, on peut dire que c'est l'équivalent de Steam. C'est le Steam de l'époque, en quelque sorte, ou l'Origin de l'époque, ou l'Epic Launcher de l'époque. Sauf que c'était un site web qui fonctionnait dans Internet Explorer, donc c'était hallucinant pour l'époque. Et tu te connectais sur ce site web, et tu avais des salons, qui te permettait de trouver des gens pour jouer en fait au jeu, et depuis ces salons, tu pouvais lancer des parties. Donc, tu disais, bah, je veux jouer à Counter-Strike, tu retrouvais tes potes là-dedans, puis hop, tu lançais ta partie de Counter-Strike, ou tu voulais jouer à la quatrième prophétie, tu pouvais te connecter pour jouer à la quatrième prophétie. Et ce qui était dingue, c'est que ce truc marchait, enfin c'était encore une fois la préhistoire du web, mais ce truc te téléchargeait un petit logiciel sur ton ordinateur qui s'appelait Pulsar, et ce type Pulsar lançait des jeux, et à l'époque, arriver à lancer un jeu depuis un site web, c'était de la science-fiction. Et d'ailleurs, au passage, aujourd'hui, avec les navigateurs modernes et toutes les restrictions de sécurité, je suis même pas sûr qu'un truc comme ça puisse fonctionner. Parce qu'à l'époque, le pulsar de Goa scannait ton ordinateur pour dire à Goa voilà les jeux qu'il a pour te permettre de lancer des jeux depuis Internet Explorer. C'était l'idée. Mm-hmm. Et donc, la quatrième prophétie, c'était très cool. Et un beau jour, il y a quelque chose qui a changé ma vie à tout jamais, qui est arrivé, qui s'appelle Dark Age of Camelot. DAOC.
Okay.
Donc, j'ai eu la chance de faire partie de la bêta de Dark Age. Parce que j'ai été un des premiers sur Lyon à avoir la DSL. Et du coup, la DSL bah, permettait enfin de se connecter à des jeux en ligne sans payer ton internet à la minute, hein, ce qui était le cas à l'époque. À l'époque, internet, c'était pas limité, tu payais à la minute. Et surtout, la DSL permettait d'aller très vite. Et donc, j'ai découvert Dark Age. J'ai passé un temps dingue sur Dark Age, qui a été un de mes jeux préférés. J'ai monté un certain nombre de persos au niveau 50, j'ai fait Master Level. Je passais des heures et des heures en royaume contre royaume. Et vraiment, ça a été Dark Age, ça a été mon adolescence. Et puis un jour, est arrivé EverQuest 2. EverQuest 2, pour moi, c'est peut-être le plus grand MMORPG qui a jamais été construit. Et là, normalement, tout le monde me tombe dessus en disant « Mais non, c'est World of Warcraft. » Et ben moi, je suis pas d'accord. Je pense que World of Warcraft est un succès commercial fabuleux. Rien à redire. Est évidemment un succès tout court, parce que la longévité du projet montre que c'est extraordinaire, mais EverQuest 2, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout inventé. C'est EverQuest 2 qui a le premier eu des graphismes somptueux, c'est EverQuest 2 qui le premier a été capable de gérer de multiples instances de personnes pour avoir l'impression qu'il n'y a qu'un seul et énorme serveur, mais que tout le monde puisse rester dessus. C'est EverQuest 2 qui était le vrai MMO à faire du vrai PVP en open world qui fonctionne. C'est eux qui ont inventé la moitié des systèmes de classification et d'objets que l'on utilise, ceux qui ont été les premiers à mettre des griffons volants qui permettaient de déplacer de map en map et des téléporteurs qui permettaient de matérialiser dans d'autres plans. Enfin, globalement, EverQuest 2 a fait des choses assez extraordinaires.
Est-ce qu'il y aurait un 3 qui serait genre dans les...
Il y avait un projet d'EverQuest Next, okay, qui était évidemment un projet que je suivais attentivement, mais qui malheureusement n'a pas fonctionné. Ils l'ont arrêté il y a quelques années après leur développement, et bon, évidemment, c'est bien triste. je trouvais l'idée très très cool, mais le projet ne verra pas le jour. Et de manière générale, ils ont arrêté à peu près tous les gros projets de MMO. Ça fait que quelques mois maintenant qu'il y a des nouveaux projets qui recommencent à sortir. Mais c'est vrai qu'il y a eu finalement après World of Warcraft, après Elder Scrolls Online, et après 2-3 trucs du style, ils se sont un peu arrêtés. Je pense que c'est les développements coûtaient trop cher. Je suppose que la maintenance des projets coûtait trop cher également. Ouais. Mais c'est dommage.
C'est vrai que la MMORPG, les derniers dont j'ai entendu parler, ça doit être celui d'Amazon, New World.
Alors, exactement. Il y a New World qui arrive.
Qui doit sortir dans pas longtemps. Il devait sortir, je pense, bien avant, mais avec le Covid, ça a été bien retardé.
Ça a été décalé. Ça fait partie des projets que j'attends. Il y a la bêta qui est en cours, là. J'y ai joué déjà un petit peu, et moi, j'ai bien aimé.
Ok.
Donc, ouais, mais justement, j'étais ravi qu'il y ait un nouveau projet de MMO. Je trouve que ça fait longtemps qu'il n'y avait rien.
Ouais, je me demande s'il n'y en a pas un. Le jeu Star Wars qui a été annoncé par Ubisoft.
C'est un MMO? C'est un...
Je sais plus. Je sais que c'est un open world, ça c'est sûr. Pas comme Jedi Fallen Order, qui est un peu un open world guidé, on va dire. C'est les fake open world, on va dire, ceux qui te font croire que t'as une liberté alors qu'en fait,
mais que t'en as pas dans un tunnel préécrit, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait c'est tes quêtes, par exemple tu peux aller sur n'importe quelle planète, mais la quête principale elle va être sur une, donc ça c'est semi. Et puis il y a pas beaucoup de quêtes annexes, en fait. Il y en a pas du tout, à part collecter des choses.
Ben on va voir ce que ça va donner, c'est intéressant.
Ouais. Et donc en termes de type de jeu, donc il y a les jeux de gestion que t'aimes beaucoup, je pense, et derrière les MMORPG. En fait, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux, le fait que ce soit des...
Non, pas forcément. Mais en fait, je joue aussi à beaucoup. Alors, il fallait donner 3 jeux, donc j'ai choisi les 3 qui m'avaient le plus marqué. Mais je joue aussi à beaucoup de choses. Typiquement, je joue beaucoup aux jeux de e-sport également.
Ok.
Style, par exemple, j'ai beaucoup joué à Overwatch, que j'aime beaucoup. Je me suis mis récemment à League of Legends, pareil là, que je trouve super 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 complet et super intéressant. Ouais. Et donc pareil que auquel je joue pas mal. J'ai beaucoup joué avant LoL à Heroes of the Storm, donc de Blizzard.
Ouais, c'est
que j'ai trouvé super intéressant. Évidemment moins complet, moins core, moins tricky probablement que League of Legends, mais je trouvais qu'il y avait un super potentiel, notamment avec les personnages des différentes licences de Blizzard qui se retrouvaient. Je trouvais ça super intéressant. Mm-hmm. Enfin, donc finalement, je joue à pas mal de trucs. À l'époque, un de mes premiers jeux, ça a été sur PlayStation, c'était Tomb Raider. Okay. Pareil, le jeu d'exploration, ça m'intéresse. J'ai évidemment beaucoup joué à GTA. J'ai testé Cyberpunk, que j'ai trouvé honnêtement pas si mal. Alors, j'ai la chance d'avoir du bon matos, mais c'est vrai que sur mon ordi, je l'ai trouvé plutôt joli et pas si mal. J'ai trouvé la narration un peu longue, mais intéressante.
Je pense que sur PC, Cyberpunk est très très bon.
Il tourne bien, oui.
Il a juste eu le droit à se faire exploser pour ses sorties, en fait.
Console. Dernière génération.
Enfin, même dernière génération. C'est ce que je savais pas, mais en fait, même sur PS5...
Ça marche quand même pas.
Ouais, il y a quand même des problèmes, quoi. Donc,
Mais c'est vraiment... Pareil, ça c'est du gâchis. Hein. C'est vraiment dommage. Il y avait tout pour que ce soit super. Et il manque pas grand chose pour que ça le soit, d'ailleurs. J'ai joué à quoi? J'ai pu jouer d'autres. J'ai pas mal joué au Final Fantasy également. Ouais. Qui sont des licences qui m'ont beaucoup intéressé. J'ai évidemment joué à Zelda aussi pas mal. Le dernier est particulièrement excellent. Et j'ai pas mal poncé la série des Anneaux aussi.
Oui.
Et d'ailleurs, le dernier est vraiment, vraiment beau. Vraiment beau, magnifique. Je trouve ce jeu génial.
Anneaux, en fait, Ouais. En comparaison à d'autres jeux de stratégie, c'est quoi ce qui les différencie?
Je trouve déjà les graphismes d'Anno vraiment intéressants. c'est souvent très beau. Le dernier est bluffant. Je trouve que le dernier est bluffant de réalisme, de détails. L'ambiance est vraiment cool. Et ensuite, ce qui est marrant avec Anno, c'est le système de alors je ne sais pas exactement comment le décrire, mais de construction par zone et de gestion des ressources. Et c'est finalement c'est une sorte de SimCity-like en quelque sorte, hein, mais où tu dois à chaque fois te dire, bah voilà, pour agrandir ma population, il faut que je rajoute tant de ressources, mais pour créer ces ressources, pour avoir ces ressources-là, il faut que j'aille les chercher à tel endroit. Pour les chercher à tel endroit, il me faut tant de nouvelles ressources, ainsi de suite. Et c'est assez amusant, je trouve, comment ça fonctionne comme jeu. Et tu peux vite faire des espèces de méga métropoles, mais qui demandent des centaines de lignes, de bateaux, d'approvisionnement dans tous les sens pour arriver à ramener les bonnes ressources aux bons endroits au bon moment. C'est assez amusant. Et puis c'est assez pisse. T'as une partie militaire, mais qui généralement est... Alors, dans le dernier anneau, la partie militaire est un peu plus poussée. Mais c'est plus de la gestion que du militaire, c'est assez marrant. Je trouve que c'est... Alors, pareil, c'est le genre de jeu, tu peux commencer à y jouer, tu te réveilles et il est trop tard. Ou trop tôt.
Ouais. C'est, je pense que les jeux de stratégie gestion, un peu comme ça, c'est... On rentre très vite, en fait, dans le flow, quoi.
Complètement, ouais.
On voit vraiment pas le temps passer. Puis en plus de ça, c'est des jeux où sinon tu peux quand même être semi-concentré, faire autre chose à côté, donc le temps passe encore plus vite.
Ouais, quand je joue à Planet Coaster ou à Civilization, généralement je me regarde une série ou je fais tout
pareil, à côté. Pareil, ouais. Sauf en ligne avec des potes, à ce moment-là, il faut garder le vocal pour pouvoir les insulter, mais...
Je vois bien l'idée, ouais.
Mais c'est vrai que ouais, c'est des jeux, moi je trouve, le temps passe très très rapidement. Je joue à Football Manager aussi, parce que c'est pareil, je vois jamais le temps passer quoi avec ça. Et...
Allez, tu m'étonnes.
Yep.
On va arriver là déjà sur les questions de la fin. Alexandre, t'as déjà pu nous dire différents jeux auxquels t'as joué, mais c'est quoi les jeux un peu auxquels tu joues en ce moment?
Alors League of Legends, je joue, enfin je suis en train de tester à l'instant on se parle d'Evil Evil. En fait ça s'appelle Evil Genius, autant pour moi. Donc tu joues un méchant, évidemment je joue toujours à Planet Coaster, je joue à un petit jeu indépendant qui s'appelle Snowtopia, qui permet de gérer une station de ski et qui est super sympa, donc qui est très amusant. J'ai beaucoup beaucoup joué récemment à Crusader Kings aussi. Et là ils viennent de sortir une mise à jour sur les Vikings, donc je vais y rejouer parce que c'est pareil, c'est en termes de jeu stratégie, c'est vraiment fun. Et puis évidemment je joue toujours beaucoup aussi à Ark. J'ai mon propre serveur, on a une très grosse communauté dessus. Et donc pareil, c'est un jeu sandbox que j'ai trouvé vraiment passionnant et que j'ai poncé. Je veux dire que lui j'y ai passé des heures. Des heures.
Arc.
Ouais, Arc, c'est ouf. Et puis Anno, du coup, puisqu'ils ont sorti également leur nouveau DLC, là, avec le nouveau Season Pass, et donc je m'y suis remis récemment. J'aime bien, tu vois, que ce soit Planet Coaster, que ce soit Crusader Kings, que ce soit Arc, ou même Civilization, mais j'aime bien les parties qui durent longtemps. Je trouve ça super sympa de pouvoir, tu vois, reprendre ta partie. Et là, je trouve ça presque frustrant quand il y a un délai, tu vois, donc. Donc je trouve ça cool de pouvoir dire tu joues longtemps. Et si t'as envie de faire la même partie 5 ans, et si ça t'éclate, tu peux continuer. Je trouve ça drôle.
Ouais, c'est marrant parce que j'ai le même goût, mais en fait à un moment, le fait d'avoir aussi quelque chose qui se termine, ça permet aussi de jouer moins. C'était un peu le truc que je retrouvais. Quand je jouais à League of Legends avant, et puis au bout d'un moment, League of Legends, c'est devenu un peu trop long. Du coup, bah, j'étais passé sur Heroes of the Storm. Parce que les parties sont quand même bien plus courtes.
Ouais, je suis d'accord.
Pour arriver derrière sur un jeu à Hearthstone, et puis là, je me suis dit, bon, quand même, le temps est très très réduit des parties.
Hearthstone, c'est très réduit. J'ai pas mal poncé Hearthstone, j'y joue beaucoup aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé Valorant, mais j'ai arrêté Valorant. Ouais. Parce que je trouvais que les parties de 45 minutes étaient trop longues, trop intensives pour moi. Et je préférais beaucoup, par exemple, un bon vieux Overwatch où tu lances ton truc, c'est réglé en 20 minutes et c'est fun.
Exact, ouais. C'est vrai que le 45 minutes, si tu peux pas t'arrêter, tu sais, ça me rappelle les souvenirs de gosse où on te dit d'aller manger, puis t'es là, bah non, bah, ça fait 20 minutes de partie. Ça n'arrivera jamais, quoi. Mais sur LOL, le problème, c'est que ça pouvait être de 20 à 60. Donc tu savais jamais pourquoi t'embarquais.
Ouais, et puis ce qui est frustrant sur LoL, c'est que des fois ça peut être 60 minutes, alors que tu sais que le truc il est perdu depuis 3 heures.
Ouais.
T'as qu'une seule envie d'arrêter, mais qu'il y a un mec qui troll et qui fait semblant de continuer à jouer.
Ouais.
Et c'est très pénible.
Ouais, ça,
mais j'avais assez peur avant de jouer à LoL de la communauté. Parce que il y a une réputation qui est quand même assez toxique à l'origine. Et en fait, j'étais surpris. Honnêtement, bon, à part quelques trolls évidemment, mais je trouve que j'étais plutôt super bien accueilli. Et j'ai plein de souvenirs de très très bonnes parties. Au contraire, il y avait une bonne ambiance, pas mal de fair play. Et de respect.
La communauté, je la connais plus depuis 4 ans, je crois. Donc, je saurais pas dire, mais il y a 4 ans, c'est vrai que c'était pas ouf. moi, j'avais fini par arrêter parce que tu te butes le crâne sur des parties pour perdre, pour avoir un classement où t'es persuadé que c'est jamais ta faute. C'est devenu trop frustrant et à un moment, je me suis dit, à part jouer avec des potes, est-ce que je m'amuse?
Mais c'est excellent que tu te poses cette question parce que je me la pose souvent.
Ouais.
J'avais poncé Overwatch, je l'ai arrêté justement parce que je me suis dit, mais en fait, ce système de ladder, c'est super chiant. Ouais. J'avais poncé Valorant, je l'ai arrêté parce que je me suis dit, mais ce système de ladder, c'est super chiant. Et moi, là, je me suis mis à LoL parce qu'il y a tellement de personnages et trucs que j'ai l'impression de découvrir des choses tous les jours. Mais c'est vrai que ça me manque en fait un petit peu les parties où tu pouvais lancer le truc. Et tu jouais contre des gens de niveau aléatoire, mais ce qui faisait que quand t'étais bon, tu pouvais vraiment gagner fort.
Mmh.
Alors que maintenant, avec ce système où en fait on te met des joueurs qui ont ton niveau en face de toi, tu sais. Alors bon, sur LoL, ça arrive, hein, pour de mauvaises raisons d'ailleurs, souvent, mais c'est difficile en fait, tu vois, vraiment d'avoir la partie où tu roules sur quelqu'un. à l'époque d'un Counter-Strike 1.6 ou autre, de temps en temps, t'allais sur des serveurs et t'avais vraiment un niveau au-dessus des gens et tu pouvais vraiment t'amuser.
La team du soleil.
T'as dit quoi?
La team du soleil. Je me rappelle toujours de genre le serveur où.
Moi j'allais sur le serveur des AA. Et en fait c'était assez facile parce que paradoxalement il y avait pas mal de débutants qui allaient dessus.
Ouais, parce que c'est plus connu.
Et tu t'amusais comme un petit fou parce que t'arrivais et c'était du free kill quoi. C'était fun.
Ouais, mais après c'est.
Aujourd'hui il y a moins ça.
Ouais, je pense que c'est parce que Riot a dû voir le revers de la médaille de celui qui se fait défoncer. C'est pas fun pour lui.
C'est ça.
Et en fait dans un. Dans un souci d'onboarding et de tutorialisation du jeu, en fait, tu préfères avoir quelqu'un de nul et qui joue contre quelqu'un de nul, comme ça, il aura plus de temps et de place pour apprendre, quoi.
Ah, mais c'est sûr que sur le principe, je pense que c'est la bonne chose à faire.
Ouais. C'est vrai.
Mais c'est juste que t'as moins ce côté. Finalement, tu vois, c'est marrant parce que je me comme c'est assez récent le fait que je joue à LoL, ça va faire 6 mois, un truc comme ça. Hein, donc je me rappelle maintenant ce que je sais du jeu. Par rapport à ce que je savais avant du jeu.
Mmh.
Et paradoxalement, tu vois, j'ai toujours la même impression, soit de galérer, soit de réussir, mais tu vois, j'ai toujours cette impression neutre, entre guillemets, tu vois, où je gagne une partie, j'en perds une, je gagne une partie, j'en perds une.
Mmh.
Alors qu'en fait, je me dis, mais putain, mais si j'avais commencé mes parties en sachant tout ça, tu vois, donc c'est les fameux smurfs, hein, ce que je me refuse à faire, mais je me dis, mais si je faisais un smurf aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est drôle, c'est que la plupart des joueurs là, qui sont devenus joueurs pro, leur première saison, c'est bronze. Tu vois, il fallait qu'ils touchent les bas-fonds en fait du niveau pour se rendre compte à quel point ils étaient très très mauvais. Il y avait des efforts à faire. Et puis derrière, en fait, les fois d'après, ça a augmenté. Mais j'ai un nombre de potes qui sont diamants master qui, quand ils ont commencé, étaient les pires bronzes. Quoi. Vraiment, mais genre, enfin, il fallait en fait qu'ils se rendent compte à quel point leur niveau était nul pour
se mettre un coup de pied au cul et se dire je vais y aller. Ouais,
ouais, mais c'est
après ce qui est compliqué c'est qu'en fait quand t'atteins un certain niveau, enfin, quand tu descends sous un certain niveau,
ouais, là tu remontes pas,
c'est difficile de remonter parce que après ça devient complètement aléatoire. C'est-à-dire, finalement, si t'as déjà la chance d'avoir 5 joueurs qui restent jusqu'au bout de la partie,
ouais.
c'est donc après, sous un certain niveau, je trouve que ça devient une sorte
c'est quasiment impossible.
Ouais, c'est quasiment random en fait, c'est de l'aléatoire pur.
Je crois que enfin il faut juste attendre la nouvelle saison, et la nouvelle saison t'as un reset et puis t'es reparti quoi. Mais eux avaient fait fini bronze quoi, ils avaient fini bronze, arriver et même sortir de bronze 4-5, je sais plus comment ça marche, mais rien que sortir de ça déjà c'était une prouesse quoi. Parce que c'est du 1 contre 9 hein. À ce niveau-là.
En fait, c'est souvent du 1 contre 9. Hein.
Ouais, ça va. Mais ouais, LOL, c'est ça. Je me refuse de m'y remettre en me disant est-ce que je veux vraiment m'amuser. Je pense que là, si je jouais maintenant, il y aurait tellement peu de pression et peu d'attente que je m'amuserais. Mais bon, derrière, c'est des parties de 45 minutes. Je peux,
c'est ça.
Je peux pas. Tu... Mais, ouais.
Top. Est-ce que Alexandre, t'as peut-être un mot de la fin pour conclure?
Bah, merci beaucoup pour la discussion. C'était super sympa de passer du temps avec vous. Et l'initiative est très bonne.
Yes.
Merci. Merci à toi.
Et bah, bientôt.
Bientôt.
À bientôt. Ciao. C'était Du Temps et des Jeux. Musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine.